Plusieurs types, là, ils sont venus l'année dernière là, pour le vote. Ils sont venus me poser la question, mais faudrait que les indépendantistes fassent le deuil de l'indépendance. Moi, j'ai dit, mais les indépendantistes, ils vont faire le deuil de l'indépendance. Moi, j'ai deux réponses. Le jour où ils auront l'indépendance, hein, ce sera le jour où ils vont faire le deuil de l'indépendance. Et puis, deuxième, c'est le jour où les Calédoniens feront le deuil de la colonisation.
Comment évalues-tu le chemin parcouru depuis 30 ans en Nouvelle-Calédonie?
Je dirais qu'en 30 ans, le chemin parcouru depuis la mort de mon père, il a été en partie d'asseoir un principe qui était celui de la reconnaissance de l'identité kanak dans les textes, puisque ça a été l'objet de deux accords politiques. Le premier accord de 88, c'était d'abord un accord de paix, l'accord de Matignon. Après, il y a eu Oudinot, à la rue Oudinot, qui s'est fait accord Matignon-Oudinot. C'est pour ça que ça s'appelle Matignon-Oudinot. C'est que dans le deuxième accord, il y a eu du rééquilibrage, la création de l'Agence de développement de la culture kanak pour mon secteur en particulier, mais il y a eu d'autres, hein, la création de la Banque calédonienne d'investissement, l'Agence de développement rural, l'aménagement foncier, la DRAF, pour tout ce qui était la question de la réforme foncière, et puis tout le dispositif de formation, 404 cadre avenir, pour au maximum doter le pays de compétences pour assumer la gestion de notre pays. Donc ça a été 88. Lui, il est mort le 4 mai 89, là, ça va faire 30 ans. Et puis après, il y a eu l'accord de 98 qui a été inscrit dans la stratégie du FLNKS à ce moment-là, comme un accord de décolonisation. Ça voulait dire aussi que de la période de 98 jusqu'à 2014-2018, qu'il y a une période de 20 ans durant laquelle non seulement on poursuit les stratégies de rééquilibrage, mais que l'État colonial se déleste d'un certain nombre de compétences qui étaient dévolues à l'État souverain français, applicable en Calédonie, puisque la Calédonie fait partie de la France, mais que dans le cadre de cet accord politique, la France acceptait de manière contractuelle de se délester du droit civil, du droit du commercial. Maintenant, à l'heure actuelle, il y a juste que les éléments du pouvoir régalien, quoi, hein, battre la monnaie, défense extérieure. Je pense qu'il y a aussi sur quelques éléments de fiscalité, recherche. La recherche n'a pas été transférée. Donc voilà, c'est depuis 30 ans, il y a eu un certain nombre d'avancées dans les textes, dans la pratique aussi, mais dans les mentalités, je pense que c'est là où il y a il y a le plus de travail encore à faire. Parce que, oui, on est encore dans des schémas de pensée qui organisent la dépendance de la Nouvelle-Calédonie vers la France, quoi, au moins dans les mécanismes de pouvoir. À partir du moment où, je dirais, les partis ne s'entendent pas pour organiser ou mettre en œuvre ces accords de décolonisation, ça veut dire notamment, par exemple, dans l'école, favoriser l'enseignement des langues kanak, l'enseignement de la culture kanak. Il y a des freins. Par exemple, sur la mise en œuvre d'un CAPES langue kanak, à l'heure actuelle, malgré les discours de principe d'Emmanuel Macron lors de sa venue ici en Calédonie l'an dernier, on est parti plutôt pour un CAPES bivalent. Ça veut dire que les langues kanak sont reconnues à moitié, en fait, puisque c'est kanak plus une matière. Donc, ça veut dire que les langues kanak ne sont pas, à l'heure actuelle, encore reconnues comme des langues d'enseignement et de culture, comme c'est stipulé dans l'accord de Nouméa de 98. Donc oui, il y a un certain nombre d'avancées. Il y a la place du centre culturel Tchibaou, pour ce qui me concerne, puisque je suis en poste actuellement ici, en tant que directeur. Mais les transformations de mentalité, c'est ce qui met le plus de temps à changer. Et puis, c'est ce sur quoi il faut faire bouger les lignes aujourd'hui, je pense, hein, à mon avis. Mais on ne peut légitimement bouger les lignes que si on appréhende la question de déconstruire une mentalité qui est, comment dire, construite, basée sur les fondements de la colonisation, en fait. C'est ça qui est le plus difficile, c'est qu'à partir du moment où depuis près de 100 ans, enfin plus de 100, 150 ans, on dit que le soleil il est vert, nous on continue à croire que le soleil il est vert, quoi. Ça veut dire qu'on n'est jamais capable, ça fait partie des choses qu'on entend, que quand on ouvre nos frigos, les yaourts que l'on mange ils viennent de Villeurbanne. Quand on boit du lait, on se rend compte que le lait vient de Belgique. C'est bien le signe qu'à un moment donné, les mécanismes de pouvoir s'articulent autour du développement économique. Et que là, non seulement en termes de gestion, parce que tous les produits d'import viennent d'Europe, alors qu'on est dans le Pacifique, ça fait que voilà quoi, ils font trois fois le tour de la Terre avant d'arriver chez nous. Mais que aussi en termes de redistribution du capital, ce qui est la ressource première de la Calédonie en dehors des hommes, c'est le nickel. Et 15% des ressources mondiales, et puis un taux de croissance qui dépasse celui de la France, c'est quand même le signe que la France a tout un intérêt de garder la Calédonie dans son giron, rajouter à ça la zone économique. La France, je crois que c'est le troisième État qui a la plus grande superficie marine. C'est pas à cause des côtes normandes, hein, c'est à cause des Outre-mer. Et la Polynésie et la Calédonie se partagent pratiquement la moitié du Pacifique. Donc c'est aussi en termes de rayonnement géostratégique des enjeux qui dépassent simplement le fait de reconnaître l'identité kanak. C'est aussi démonter tout un mécanisme de pensée qui est articulé autour de l'empire, je ne veux pas dire l'empire colonial français parce que c'est un peu désuet comme terme, mais... Bon, ici, on est 270 000 habitants, on sait qui pilote les grandes sociétés, les leviers du pouvoir économique, ils sont là aussi. C'est le mode de société qui est pensé comme cela. Hein. Il faut que chacun tire son épingle du jeu. Nous, on a peut-être mal joué, peut-être qu'on n'a pas investi le champ économique parce que c'était trop compliqué, mais l'objectif de l'indépendance, à la base, la reconnaissance de l'identité kanak, c'est d'appréhender un prisme par lequel, dans l'économie, dans le système occidental qui nous est imposé, on puisse trouver un modèle qui nous... Enfin, intégrer dans ce système des références qui font de nous, non plus des étrangers, mais une adéquation avec nos systèmes de valeurs, quoi, nos références. Partage, fiscalité, reconnaissance, le patrimoine... Avant que mon père il soit au pouvoir, juste un petit exemple, c'est 82. Il entre au gouvernement, il met en place l'impôt sur le revenu. Donc ça veut dire que pendant près de 100 ans où la SLN était ici, à exploiter le nickel, je disais tout à l'heure 15% des ressources mondiales, il y en avait certainement plus avant, mais pendant 100 ans, ils ont exploité sans verser de dividendes à la Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire que les retombées financières pour la Calédonie, elles étaient minimes, ni en termes de fiscalité, ni en termes de redistribution de la richesse. C'est le libéralisme à son apogée, quoi. C'est ça aussi où je dis que la différence, c'est aussi que nous, on s'appuie sur des références où on dit partager, avoir les mêmes chances de réussite. Faire que les gens de Yengen, de Belep, ils aient les mêmes chances que les petits gamins des quartiers sud de Nouméa. C'est ça c'est difficile de se placer à contre-courant parce que on met beaucoup plus de temps à atteindre l'autre rive, quoi. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va abandonner, hein, parce que nous, on a l'orgueil de croire que ce que nous ont donné les vieux, nous, on a besoin de le partager. Après, de gré ou de force, comme ça s'est fait durant les événements, on espère que ce ne sera pas par la force, mais par le dialogue, on essaie de tendre vers le meilleur.
Chibaou, Yewene, Machoro et même Declair, toute une génération de leaders indépendantistes a disparu il y a 30 ans et plus. Ont-ils trouvé leur successeur? Qui, aujourd'hui, pour porter ce combat?
Moi, je suis le fils de Jean-Marie Chibaou. Moi, les paroles qu'il a dit dans les médias et à la maison, moi, j'ai retenu. Les paroles que Machoro il a dit dans les médias et à la maison, moi, j'ai retenu. Pareil que Yewene. C'est ça qui fait ce que je suis aujourd'hui, mais je pense que le manque, il est pas tant sur les bonhommes. Il est plutôt sur la manière dont on pense le discours et on le met en pratique. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, hein, mais ces types-là, je dis que c'était nos super-héros, nos modèles. C'est que je peux dire que je sais c'est quoi quand je les voyais faire, je peux dire que je crois en l'indépendance. Il y a une différence avec ceux qui sont arrivés après. La différence, elle est sur le fait de produire une vision, de la mettre en œuvre, de la mettre en pratique, et puis après d'être simplement des... ceux qui ressortent le discours. La différence que moi je ferais, hein, si j'avais une analyse à apporter là-dessus, ce serait celle-là. Ce serait la différence que j'ai vue, c'est d'être juste des porteurs de discours, mais ne pas lier le verbe avec le geste, le dire avec le faire. Moi, le truc que le vieux nous disait, c'est ça. De pain, de point. Ça veut dire tu dis et tu fais. Si tu veux que ta parole elle soit viable, si tu veux que ta parole elle s'enracine dans le pays, ben, il faut lui donner un corps, il faut lui donner un esprit, il faut lui donner des racines. Puis c'est comme ça qu'après l'indépendance, ben, on voit les fruits. Moi, je peux dire qu'elle a expérimenté tout, à chaque niveau la vision politique et puis après sa déclinaison pratique. Modèle d'éducation, c'est avec les EPK, École Populaire Kanak. Agriculture, c'est les projets, la création des GDPL, groupements de droits particuliers local, où les tribus ont la possibilité de se structurer en une sorte de SEM, quoi, société d'économie mixte, mais sur terre coutumière. Ça n'existait pas avant, mais ça c'est eux, 82. La première compagnie c'est Yewene, Air Calédonie Internationale. Donc agriculture, économie, culture, la création du premier centre culturel, c'est le centre culturel Yengen en 1984. La première création des cases ici dans la ville de Nouméa. Bon, il y avait la case du musée, mais il y a toutes les cases de Kouikara qui se situent à l'entrée de la ville de Nouméa. Parce que c'est sur ce lieu-là que devait se tenir le Festival des Arts du Pacifique en 1984. Et le vieux, il avait dit, mais il faut faire à l'entrée de la ville de Nouméa. Comme ça, les gens, ils voient qu'il y a des gens ici. Il y a des indigènes ici. Ils ont leur architecture, ils ont leur culture, ils ont leur cuisine, ils ont leur... Voilà.
Le chemin vers l'indépendance semble une lutte interminable. 30 ans après la disparition de Chibaou et Yewene, celle-ci n'est toujours pas achevée. Quel regard portes-tu sur ce temps long ?
La différence avec l'Occident, c'est que nous, on ne va pas se sauver d'ici. Nous, on ne va pas se sauver. On n'a pas d'autre endroit où aller. Peut-être les Français peuvent se sauver en Espagne, ou en Italie, ou en Suisse, ou si jamais il y a des gens qui vont habiter chez eux. Nous, on va mourir ici. Et puis, je pense aussi, les Calédoniens qui habitent ici, ce pays, ils n'ont pas l'intention de se sauver. Pourquoi je réponds ça de cette manière-là, c'est que le temps il joue pour nous si on garde la foi que demain ça peut être meilleur. Mais si on n'a pas confiance dans notre pays, si on n'a pas confiance dans les hommes, on ne peut pas sereinement se projeter. On pourrait aborder les mouvements de libération à l'époque des années 60 et 50, depuis Sékou Touré jusqu'à Bourguiba ou je sais pas les Égyptiens ou les Africains ou même en Amérique du Sud. Nous, on est arrivé, on est sur la fin de la comète, on est sur de ces indépendances-là. Et ce qui est, d'une certaine manière, je dirais que ça joue à notre avantage. C'est que les chemins par lesquels les autres mouvements de libération sont passés et ont traversé cette phase de reconnaissance, la création d'un État souverain, et puis après, les mécanismes de domination qu'ils ont perduré par des accords de coopération, par exemple, ce qu'a mis en place le système qu'on a nommé France-Afrique, de la France avec ses anciens pays colonisés. Nous, on a vu les travers de ces indépendances immédiates aussi. Et que la stratégie de se donner 10 ans pour former des cadres de 88 jusqu'à 98, c'était aussi de se dire, si la France est responsable de la colonisation, elle doit aussi avoir une responsabilité dans la décolonisation. Et ce temps-là, c'est aussi ce temps pour que ce chemin il se fasse dans l'esprit de nos dirigeants, qu'ils soient indépendantistes, qu'ils soient loyalistes ou qu'ils soient simplement de l'État français. Donc je veux dire par là que la question coloniale ne doit pas être juste une question d'un débat local, argumenté entre les loyalistes, les indépendantistes et au-dessus, évanescent un État qui se voudrait, son parti pris de cette situation. La Calédonie est française parce que la France est venue ici. Nous, on n'est pas allé coloniser la France. C'est la France qui est venue chez nous. On n'a pas demandé notre avis. On a fait signer les grands-pères avec les fusils sur la tempe, quoi. Sinon... Donc ça veut dire à un moment donné que le temps long, il sert aussi à ça, à déconstruire, au moins à construire une nouvelle mentalité qui corresponde à l'appréciation de cette dimension historique qu'on a voulu occulter du débat en France, mais que nous, c'est la première condition avec laquelle le débat il doit s'instaurer si on doit être sincère sur les perspectives, qu'elles soient avec la France ou en dehors de la France. C'est ça le premier postulat, c'est d'abord déconstruire ce modèle de domination qui a été imposé par le système colonial. Mais c'est difficile parce que les modes de pensée, ils ont tellement été imprimés dans les consciences collectives de nos compatriotes, calédoniens comme Kanak ou comme Wallisiens, que c'est difficile de déconstruire en l'espace de 20 ans quelque chose qui a été instauré comme une règle de domination depuis près de 100 ans, qui est diffusée dans les médias, qui est diffusée dans l'urbanisme. Chercher des références à la culture Kanak ici à Nouméa, il n'y a pas. Enfin, il y a le centre culturel Chibao qui est situé un peu en périphérie, mais dans la ville, en termes d'architecture, il y a très peu de références. Si vous allez dans un restaurant, vous allez chercher, si vous allez dans le sud, vous allez trouver des restaurants du sud-ouest. Mais ici en Calédonie, restaurants calédoniens où on mange les plats de chez nous, très peu. Gastronomie française, oui, mais gastronomie calédonienne, pot de balle, il n'y a rien. On a plus de chances de trouver des restaurants viettes, par contre. Mais je donne quelques petits exemples, mais il y en a plein d'autres. Hein. Je parlais des langues, la reconnaissance des langues. Dans les médias, il n'y en a pratiquement pas. Et c'est là où c'est un peu paradoxal pour nous aussi de dire on va créer un centre culturel, par exemple, pour que les gens nous calculent, nous voient, alors qu'on est chez nous. Je veux dire, c'est comme si en France, on faisait un centre culturel français. En France, un centre culturel français, c'est idiot. Nous, ici, on fait un centre culturel Kanak en Nouvelle-Calédonie parce que si on n'a pas cette approche-là, ben on ne nous calcule pas, on ne nous voit pas. Il n'y a pas de culture ici. Ah, mais c'est où les restaurants pour manger du foie gras ou... Oui, c'était cette, pendant la, jusque dans les années 80, ça a changé après que mon père il est arrivé au pouvoir et puis qu'il a mis en place des stratégies de développement du tourisme. Mais le discours qui était tenu avant, c'était la petite France du Pacifique. C'est ça le truc. Et que c'est bien pour dire que jusque dans les années 80, la mentalité, elle était complètement axée sur ces stratégies-là. Et ça perdure d'une manière ou d'une autre. C'est ça le... Oui, la difficulté, quoi, c'est de transformer les mentalités et que s'inscrivent dans le quotidien vraiment cette volonté de créer quelque chose de différent, qui nous ressemble.
Après les accords de Matignon-Oudinot, après les accords de Nouméa, après les politiques dites de rééquilibrage, quelle est la situation aujourd'hui du peuple kanak ?
Les indicateurs sociaux, à l'heure actuelle, ils marquent bien que l'identité kanak, enfin la société kanak, ne se reconnaît pas dans les modèles qui lui sont de construction idéologique qui lui sont proposés. Échec scolaire. Ça veut dire que nos enfants, ils appréhendent l'école comme quelque chose qui est l'école, encore aujourd'hui, peut-être que c'est trivial de le dire, mais de l'école des Blancs. Parce que cette école fait d'eux des étrangers à leur référence. Quand on parle d'accès à l'emploi, les statistiques, elles montrent que ceux qui se retrouvent en marge du système économique, soit par l'emploi, soit par même des velléités de création d'entreprises, c'est encore les Kanaks. Kanak et océanien, parce que c'est pas juste. Mais nous, on est chez nous. Les autres, ils peuvent dire qu'ils sont aussi mis sur le carreau. Mais bon, nous, ici, c'est plus difficile à accepter parce qu'on est chez nous. Cette terre, elle nous appartient. C'est celle qui nous a vu naître, quoi, et puis sur laquelle les esprits de nos grands-pères ils se sont posés, quoi. Accès à l'emploi, accès aux diplômes. Accès à l'habitat, ici on est bien placé au centre culturel Chibaou, on est sur une presqu'île qui s'appelle Tina-sur-Mer, dans la périphérie de Nouméa, et d'un côté, quand on se tourne là où on est, là-bas en face, il y a une petite colline où il y a, je sais pas, peut-être 400 personnes qui habitent dans des squats. Puis quand on tourne son regard à gauche, on a un quartier des plus... Enfin, les gens qui ont le plus de revenus de Nouméa, ils sont basés ici. Tu y accèdes avec un portique, quoi. Et puis, il y a un code d'accès. C'est un peu Beverly Hills, quoi, chez nous. Et je dis que c'est symptomatique d'une frange de la population qui ne refuse pas le développement, mais qui... l'appréhende avec la casse que ça comporte. On parle d'insécurité, on parle de conduite de la consommation des psychotropes addictives, du taux de suicide, les Kanaks. Les accidents de la route, les Kanaks. C'est le record national en France. Alors je ne sais pas au niveau mondial, mais c'est bien le signe que la société, elle ne va pas bien. Et on parle d'insécurité, où on pointe toujours les Kanaks, encore une fois. On dit que c'est eux qui sont la cause des troubles, c'est la jeunesse Kanak en déshérence, c'est les rebuts de la société, que font les coutumiers. Mais voilà, c'est là où peut-être que le prisme par lequel on envisage ces symptômes, il est à transformer pour moi. Parce que si on est contre l'école, si on ne trouve pas notre place dans la société, est-ce que cette société, elle correspond à nos valeurs ? Est-ce que société, elle correspond à nos attentes ? Si on parle d'insécurité, il faut aller en tribu. Moi, je dis à Thiedanit, l'insécurité, il n'y a pas. Les maisons sont ouvertes. Parce qu'il y a un cadre qui est simple, qui est légitime, et puis de la cime des sapins jusqu'aux racines des banyans, la parole, elle est une. On sait où est notre place. On sait où sont nos références. Alors, ça, c'est bien pour la tribu. Mais je veux dire, quand on appelle au secours la société Kanak, au secours les coutumiers pour leur dire « Occupez-vous des jeunes, occupez-vous de... » Oui, les coutumiers, dites une parole pour les jeunes qui sont en déshérence, mais la société Kanak, elle n'est pas responsable de ce système qui nous est imposé. C'est ça Je veux dire, un autre exemple, c'est tous les mois, j'interviens là-bas au quartier des mineurs, au camp Est, ce qui est la prison de Nouméa, qui est située à une dizaine de kilomètres dans la ville de Nouméa, sur la presqu'île de Nouville. Au quartier des mineurs, voilà, il y a 98% des jeunes qui sont des Kanaks. Et puis, j'interviens là-bas au titre du Centre culturel Chibaou pour parler avec eux de l'identité Kanak, la place qu'ils occupent dans la coutume. On travaille sur ces notions d'identité, de bonjour, de se respecter, de partager, de savoir qui ils sont, de leur redonner une place. Et quand je dis 98%, c'est des Kanaks, mais sur l'ensemble du camp Est, c'est le nom de cette prison, il y a 95%, c'est le seul endroit où les Kanaks sont majoritaires, c'est là. C'est pas dans la représentation, dans les bureaux de vote. Hein. Et c'est le signe que vraiment la société, il y a un malaise. Et c'est là où je dis que c'est un peu bizarre comme approche de venir demander aux Kanaks de trouver des réponses pour lesquelles la société occidentale a imposé des modèles. Je ne veux pas dire que c'est bien de se révolter ou de voler dans les maisons. Je veux dire que les gens, à un moment donné, ils sont vivants et ils témoignent de ce refus par des actes d'incivilité. Mais c'est sain, la révolte, si on est en capacité de la dépasser. Je pense qu'il y a déjà des solutions dans les quartiers, les associations, la vie, la société civile, elle a construit déjà des propositions. Le danger, c'est que ce que je disais, producteur du discours d'aliénation, c'est pas à l'endroit simplement de l'Occident, c'est aussi à l'endroit des Kanaks, qui deviennent, parce qu'on leur a maintenu cette idée que la culture Kanak n'existe que dans les tribus, deviennent eux-mêmes producteurs d'une aliénation vis-à-vis des jeunes qui habitent, des communautés Kanak qui habitent dans les quartiers. Et puis on va leur dire, vous n'êtes pas des vrais Kanak, vous n'avez pas de champ d'igname, vous n'avez pas de cases, mais ils vont faire où des cases dans le béton là? Ils vont planter où les ignames sur le coltar, sur le bitume? Il y a des choses qui existent, mais si à aucun moment on donne la chance à ces et on conforte la légitimité de cette existence dans l'urbanité, on va forcément véhiculer des représentations qui sont des représentations dépassées. L'héritage de la colonisation, il est aussi celui-là. Le fait que, pour partie, les Kanaks, à la phase de revendication, se sont retrouvés aussi embarqués dans un discours qui était de dire bah là, la société Kanak, c'est l'énarque, quoi. Les trucs, ils n'ont jamais bougé pendant 200 ans. C'est faux. Ça a déjà bougé, ça bougera encore. Et puis, la culture Kanak, c'est une culture mutante. C'est comme vouloir empêcher la rivière de descendre de la montagne. C'est impossible. Elle va toujours trouver un chemin, même s'il y a un barrage, elle va passer en dessous, même s'il y a des cailloux, elle va contourner. Parce que c'est l'humanité qui est faite de cette peur du vide. Et le vide, même dans les quartiers, la culture Kanak, elle existe. Le reproche que je pourrais faire, c'est ça, c'est de vouloir enfermer la culture Kanak dans la tribu. Or, là où il y a le plus de Kanak, c'est pas dans les tribus. Hein. C'est ici, à Nouméa, à Grand Nouméa, où il y a près de 100 000 habitants. On se rend compte qu'on est héritier d'un dispositif qui nous a aliénés, puis que le danger, c'est que quand nous-mêmes, on est producteurs de ce discours d'aliénation. C'est pour ça qu'on a fait le centre culturel Chibaou, c'est pour ça qu'il y a eu les accords politiques, c'est pour ça que les gens se sont battus pendant les événements, parce qu'ils voulaient que ce discours de domination, au moins qu'on nous écoute, quoi. Et le plus triste, c'est qu'on soit obligé, qu'on ait été obligé d'aller à l'affrontement pour que les gens nous calculent finalement et puis nous disent, mais finalement, c'est quoi que vous voulez? C'est ça le... Oui, c'est ça qui est triste, quoi.
Quels enseignements tires-tu du référendum du 4 novembre 2018 qui a vu le oui à l'indépendance obtenir 43% des votes, un score bien supérieur à la plupart des pronostics, grâce notamment à la forte mobilisation de la jeunesse kanak?
Je pense que chez les kanaks, c'est identitaire d'abord, hein, parce que c'est la fierté d'appartenir à un tout pour lequel on se sent légitimement dépositaire de soit d'un combat, soit de préserver cette notion qui construit notre rapport à l'autre. Mais ça n'a de sens que si l'autre qui est en face, à qui je m'adresse quand je vote, il me calcule aussi. C'est pas un truc de repli sur soi, au contraire. C'est une stratégie d'aller au-devant de l'autre pour lui dire, hey, mon frère, voilà, moi, c'est chez moi ici. Voilà, moi, je suis comme ça, c'est comme ça ma coutume, c'est comme ça ma langue, etc. Sur la mobilisation de la jeunesse, moi, j'étais complètement convaincu que les jeunes, ils allaient se mobiliser parce que c'était leur jour, quoi. Tous les autres jours, on ne leur donne pas la parole. Tous les autres jours, on ne les écoute pas. Tous les autres jours, on les stigmatise. Mais chez nous, dans notre manière de concevoir la construction de la société, c'est... La force d'une société, c'est ses jeunes. C'est ses jeunes. Il faut avoir confiance dans sa jeunesse. Moi, je pense que c'est là notre plus grande... Notre vraie puissance, elle est là. Elle est dans cette capacité de régénérer les concepts, de s'émanciper des modèles. Si notre jeunesse, elle est capable de s'émanciper des modèles de domination, elle est capable de formuler de nouveaux concepts qui correspondent à leurs aspirations. Parce que si on se bat pour la société qui était celle de nos grands-pères et de nos arrière-grands-pères, ça veut dire qu'on n'a rien compris à la notion même de culture. J'avais entendu les bruits de la rue qui disaient « Ouais, il y aura de la casse, il y aura des mouvements sociaux, il y aura de la violence. » Ah ouais, non. Tu peux pas jouer avec ça. Tu peux pas. Les jeunes, ils ont trop conscience des enjeux. Moi, je dis parce que je travaille avec eux. Donc, je sais que y a quelque chose qu'on peut pas leur ôter. C'est cette dimension d'être d'ici. Et leur dernière carte, quoi. Le jour où ils ne pourront plus dire qu'ils sont kanak ou qu'ils sont d'ici, ils vont dire quoi? Ils seront réduits à néant, quoi. On se rend compte des écueils que la société qui est la nôtre aujourd'hui, il y a beaucoup de déséquilibre, beaucoup d'injustice, et qu'au niveau sociétal, ça ne correspond pas forcément aux aspirations de tous, et les chiffres du malaise social qu'on a évoqué tout à l'heure sur l'insécurité, les suicides, les conduites addictives, les accidents de la route, touchent toujours nous les Kanaks et les Océaniens. Ça veut bien dire qu'à un moment donné, dans ce vote, il y avait aussi cette volonté de penser autrement, quoi, en dehors de, comme ils disent les Anglais, out of the box, quoi. Pour l'instant, le box, on est bien enfermé dedans, c'est celui du discours, quoi, qu'on veut plus dire colonial. Alors il faudra trouver certainement un autre mot, mais parce que colonial, ça pique un peu. Quand on parle de colonisation ici, ça pique encore. Du coup, c'est aussi pour ça que le projet, il a nécessité, je pense, de faire le deuil de la colonisation. Il faut qu'on l'enterre profond. Et puis qu'on l'enterre, pas juste nous, les Kanaks. Parce que si on demande la liberté pour nous, les Kanaks, simplement, ça veut dire que nos frères calédoniens qui sont ici depuis plus de 100 ans n'ont pas fait le deuil de ce système et que sont eux-mêmes devenus des produits de ce système et veulent maintenir les mécanismes de domination et qu'on ne fasse... Faut que les leviers économiques, par exemple, ils soient toujours aux mains des mêmes groupes, c'est le signe que la société elle a pas été en capacité de se réformer, quoi. Hein. C'est ça aussi le truc. Et pour moi, voilà, la question de l'indépendance, pour moi, elle s'éteindra que le jour où la question de la décolonisation, elle sera assumée par pas uniquement par les Kanaks, mais par l'État français et par les Calédoniens. Si la France n'a pas été en capacité de se repenser là-bas, de refondre son projet de société, mais qu'elle nous laisse le droit de repenser, nous, notre projet de société ici avec les Calédoniens. Déjà qu'on nous laisse gérer notre petite île avec notre patrimoine minier, nos identités partagées, une école qui nous correspond, une nouvelle architecture, peut-être des nouveaux plans d'urbanisme dans lesquels on se reconnaît. Là, le danger, c'est qu'on nous occulte ces velléités-là. Et c'est là où je dis que c'est pas faire preuve de grandeur et de maturité pour la France. En 86-87, ça a été reconnu à l'ONU. La Calédonie est un pays colonisé et qui doit être décolonisé. Alors, c'est chaud quand même de décoloniser tout en restant sous la joug de l'État colonial. C'est ce que les Français pensent. Je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, mais c'est une nouvelle forme de... Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça n'existe pas encore pour moi dans mon esprit. Peut-être que c'est quelque chose à inventer. C'est à l'heure actuelle, il n'y a pas d'autre décolonisation qui ne se soit fait qu'en dehors de l'État, en sortant de l'État colonial. Enfin, le propos même de la construction décolonisation, c'est qu'il y a des devants qui veut dire qu'on sort de la colonisation. Et si la colonisation est instaurée par l'État colonial, ça va. Ou bien il faut changer, il faut dire on accède à la pleine souveraineté. Et après, nous, on se donne le choix de signer des partenariats avec la France et puis de dire ben, on aime bien quand vous nous fouettez, allez, on va vous racheter un nouveau fouet. C'est un peu maso comme concept de colonisation de la France.
Ana ta gulelo, we call me Caledoni, no misere gem. Na lani to yose, we na nwe gupan, we ne riti wadoku, we no rese padoku. Mama ye we ne jomarti vao, terrori na wawa, sonore dongo dong. And it is you who are that, there are no for it that kind, but you are in a wawa. Go Lord to Korea, we put a wawan, a jib and a ruwe, so no I don't go down. Mama ye wene, so marriage in wawa, terror in a wawa, so no I don't go down. Inu pulano de kuru, de kuru ne mucho, que jirita ruat. Na sere hana uni, lene nore don odon, de sakuto matinho, de raipa ne sobe. Mama ye wene, so mariti bau, tarari na wawa, so nore don odon. Mama ye wene,
Ma couleur ressort, noir et blanc, unis plus fort.